Chapitre 12. Rentrer à l'abbaye. Douloureux retour qui rouvrait l'ancienne blessure. Violette sentit son cœur se briser. Le retour était plus triste encore que le départ. À travers la porte grande ouverte, on apercevait un bon feu pétillant qui semblait aussi cordial qu'autrefois. Le fauteuil était là, près du foyer, mais vide. Il y resterait toujours. Vixen l'avait voulu ainsi. « Que rien ne soit changé, ma chère maman », avait-elle dit bien des fois quand sa mère écrivait ses ordres à la femme de chambre. « Dites-leur de tout laisser comme au temps de papa. Ma chère, cela ne vous fera que plus de peine. Oui, mais j'aime mieux souffrir que de l'oublier. J'ai plus peur de l'oublier que de me faire trop de chagrin », dit Vixen. Maintenant, après son voyage, debout devant le feu, enveloppé de fourrure, la tête couverte d'une toque fourrée, il lui semblait voir le fauteuil occupé. C'était son rêve réalisé. Oui, elle voyait son père. Il était bien là, assis, en costume de chasse, et son fouet en travers de ses genoux. Le vieux chien favori du baronnet vint se mettre à ses pieds. Comme il paraissait brisé, on eût dit que le chagrin l'avait vieilli. Pauvre Nippe, dit-elle en le caressant. Toute votre gaieté est partie avec papa, n'est-ce pas ? C'est bien triste, murmurait Mrs. Tempest en enlevant son manteau. C'est un triste retour. Il me semble que c'était hier que je suis entrée ici en nouvelle mariée. Vous ai-je dépeint mon costume de voyage, Violette ? Il était en soie changeante, c'était la mode alors. Marron et bleu, une combinaison de couleurs. Je trouve que ce genre est toujours très laid, répondit vivement Vixen. Pauvre Nippe, comme les chiens sont fidèles, ils pleurent maintenant, pauvre bête. En effet, les yeux de l'intelligent animal étaient mouillés de larmes lorsqu'il les jeta sur Vixen qui avait appuyé sa tête sur ses genoux. Il avait donc de la mémoire et du cœur, ce brave chien. « Que c'est triste !» reprit Mrs. Tempest. « Pauline, servez-nous une tasse de thé. » Elle se jeta dans un fauteuil face au feu. Pas dans le fauteuil en cuir à haut dossier du baronnet. Il était sacré maintenant, comme un souvenir de mort. Il en conservait la place. « Je me demande s'il reste un vivant de tous ceux que nous avons connus ici, » dit Vixen en se renversant dans sa chaise basse et en caressant les chiens. « Ma chère Violette, pourquoi tant de gens seraient-ils morts ? Nous n'avons été absentes que 2 ans. »« Oui, mais ce temps me paraît si long. Je crois que je ne reverrai pas les figures que je connaissais. »« Il n'est pas là, » ajouta-t-elle avec un sanglot. « Pourquoi tous les autres seraient-ils épargnés ?»« Les œuvres de la Providence sont mystérieuses, » soupira la veuve. « Cher Edward, comme il était beau la première fois qu'il m'amena ici. » Il a jusqu'à la fin conservé son air noble. Pas plus d'une cuillerée de thé, Pauline. Vous devez bien savoir la quantité que j'aime. Ceci était dit à la femme de chambre qui préparait la théière sur une petite table devant le feu, la même table sur laquelle Violette et Rory avaient pris le thé si gaiement le jour de l'anniversaire du jeune homme. Après le thé, la mère et la fille visitèrent la maison. Comme tout leur paraissait étrange et triste. Les fidèles serviteurs avaient bien fait leur devoir, tout était en ordre. La dernière pièce dans laquelle elles entrèrent fut le cabinet du baronnet. Là étaient tous ses livres favoris, le Sporting Magazine tout entier, relié en maroquin rouge, Nemrod et les druides, les mémoires d'Ashton Smith et beaucoup d'autres ouvrages du même genre, des livres sur l'agriculture, sur les armes, sur les chiens. Ici étaient rangés les fusils et les cravaches du baronnet, collection bizarre disposée par lui-même. Les domestiques n'avaient fait que les épousseter. Près de la cheminée se trouvait un large fauteuil en maroquin rouge, destiné au maître de l'abbaye quand il recevait son garde-chasse, son piqueur ou son homme d'affaires. « Maman, je désirerais que cette porte fût fermée. Si vous en gardiez la clé, afin que personne n'entrât ici, » dit Vixen. « Ma chérie, c'est précisément le moyen de nourrir votre chagrin. Mais je le ferai si vous voulez. Faites-le, chère maman. Si vous voulez me confier la clé, je viendrai tous les jours épousseter ces objets. Ce sera pour moi un bonheur. Un triste bonheur, si vous voulez. Mais j'en serai heureuse. » Mrs. Tempest ne refusa pas, et quand elles sortirent, Vixen ferma la porte et mit la clé dans sa poche. Noël approchait. C'était, pensa Vixen, l'époque la plus triste pour un semblable retour. Les jardiniers apportèrent dans leurs brouettes des touffes de sapin et de laurier, mais Vixen refusa de prendre part à la décoration du vestibule, des corridors, de l'escalier et de la galerie. Elle, autrefois si active, si gaie dans ce travail. Les modestes habitants du village se réjouirent du retour de la famille au château. Et Vixen éprouva du bonheur en retrouvant tous ces braves gens, les vieillards, les enfants joufflus et les mères vieillies avant le temps par des travaux incessants et les soucis de la vie. Elle était heureuse de se retrouver dans sa chère abbaye, en dépit de la tristesse qui l'environnait. Elle alla aux écuries et renoua connaissance avec les chevaux qui, tout l'été, avaient été libres dans la prairie. Seul l'attelage de Mrs. Tempest, deux beaux chevaux bais, avait été emmené à Brighton, ainsi que le magnifique pur sang de Vixen et un cheval pour le groom. Tous les autres avaient été laissés. Aucun d'eux n'avait été vendu, quoique l'écurie fût trop grandement montée pour les besoins de la veuve et de sa fille. Bull Punch était là, le cheval que le baronnet montait le jour de sa mort. Violette alla le caresser en pleurant. Elle sortit de l'écurie afin de cacher ses larmes et monta à sa chambre pour s'abandonner librement à ses tristes souvenirs. Miss McCroke n'était plus là pour lui prodiguer ses consolations. L'éducation de Violette se trouvait terminée. En d'autres termes, on lui supposait toute la science nécessaire à une jeune fille riche et de bonne maison, c'est-à-dire une teinture de français, d'allemand et d'italien, un obscur souvenir des principaux faits de l'histoire moderne, quelques vagues notions d'astronomie, une connaissance très superficielle de la botanique et de la minéralogie, un peu de géographie et une grande indifférence pour la littérature, à part la poésie et les romans. Tel était son bagage scientifique. Miss McCroke, après avoir fait consciemment son devoir, était allée faire l'éducation de trois jeunes filles d'un colonel anglo-indien, un veuf qui lui avait donné sur elle une autorité maternelle. Elle avait quitté Mrs. Tempest avec tous les honneurs, et Vixen lui avait prodigué les cadeaux, mieux qu'à tout autre moment de son éducation. Elle aima sa gouvernante dans la dernière semaine qu'elle passa avec elle. Dans sa disposition d'esprit, c'était pour elle un soulagement d'être débarrassée d'inutiles consolations. Elle se jeta dans son fauteuil et sanglota à son aise. « Oh, le meilleur des pères ! Comme cette maison est triste sans vous !» Puis elle se ressouvint du jour où Roderick avait essayé de la consoler, alors qu'elle n'entendait même pas sa voix. C'était la dernière fois qu'elle l'avait vu. « Je ne lui savais pas gré de sa sympathie, je crois, » dit-elle. « Il a dû partir avec cette idée que j'étais froidement ingrate. Mais j'étais perdue dans ma douleur. Il me semblait que rien au monde ne pouvait plus m'intéresser. » Ses sanglots cessèrent peu à peu, elle sécha ses larmes, et le goût de la vie, privilège de la jeunesse, lui revint peu à peu. Ses yeux parcoururent la chambre où elle avait passé son jeune âge, cette chambre qui portait les traces nombreuses de ses caprices et de ses fantaisies, dont tous les ornements avaient été achetés par elle-même avec son petit argent de poche. Quelques-uns même étaient son ouvrage. Malgré la première impression si pénible du retour, elle était heureuse d'être là. La belle campagne, la forêt, les environs, tout cela était si bon à revoir. Puis il est si doux de se retrouver chez soi, entouré de ce qui est à vous. Un bon feu de bois pétillait gaiement dans l'âtre, au dehors soufflait un vent âpre, et des flocons de neige tombaient doucement sur la terre durcie. Tout à coup, Argus entra et vint sans façon s'étendre de tout son long devant la cheminée. Vixen, renversée sur sa chaise basse, regardait les flammes toutes songeuses. Bientôt sa bouche, serrée par le chagrin, se dérida dans un sourire, et ses beaux yeux exprimèrent le réveil d'un gai souvenir. Elle pensait à son ami d'enfance, à Rory. « Viendra-t-il aujourd'hui ?» se disait-elle. « Je le crois, il doit être ici pour la chasse. Oui, il viendra aujourd'hui. Comment sera-t-il ? Plus beau qu'il y a 2 ans ? Cela ne se peut guère. C'est tout à fait un homme maintenant. 23 ans. Il ne faudra pas que je plaisante avec lui. » La pensée de le voir lui donnait de la joie. Il lui semblait qu'elle n'avait pas vécu pendant ces 2 années, passée loin de tout ce qui lui était familier. Il lui semblait qu'une autre Vixen toute nouvelle, un modèle de distinctions et de bonnes manières, avait parcouru le monde, tandis que l'ancienne Vixen, la vraie, était restée dans la vieille abbaye, plongée dans le sommeil de la Belle au bois dormant. Son existence avait été frivole et mondaine, distraite par d'aimables compagnons de voyage à Nice et en Suisse, lesquels se souriaient, enchantés de se connaître, puis se séparaient, probablement pour toujours, sans le moindre sentiment de tristesse. Mais voici qu'elle avait enfin retrouvé ses amis, ses chevaux, ses chiens, sa maison, les jardins, les champs, la forêt où elle avait été si heureuse. Elle redevenait elle-même, c'est-à-dire la vive et souriante Vixen, que le baronnet Tempest et les bons paysans avaient adorée. « J'étais vraiment bien élevée, distinguée, une seconde édition de ma mère. Maintenant, je reviens dans la forêt. Mes belles manières peuvent s'envoler. Je foule du pied le sol natal, et mon vrai nom est MacGregor. » Quelque vive tristesse que lui causa le souvenir de la mort de son père, Roderick Vaudrey était la figure dominante qui remplissait un peu le vide causé par l'absent. Rory viendrait-il bientôt ? La verrait-il ? Serait-il heureux de la retrouver ? Que penserait-il d'elle ? La trouverait-il changée, en mal ou en mieux ? Je voudrais bien savoir, se disait-elle, ce qu'il préférera, des bonnes manières de la Vixen nouvelle ou bien des anciennes façons de la Vixen originale. La matinée se passait et Vixen restait tristement assise près du feu. Elle s'était mise en tête que Roderick allait venir. Elle était assez naïvement consciente de sa petite importance pour se figurer que son retour avait été annoncé dans les feuilles locales. « Il viendra aujourd'hui, se disait-elle, avant le déjeuner peut-être. Et à nous trois, Rory, maman et moi, nous irons comme autrefois nous asseoir autour de la table dans la bibliothèque. La bonne petite chambre chaude où si souvent nous étions ensemble avec papa. » Et cette pensée renouvelait toute l'amertume de sa douleur. « Il me semble que je la supporterais mieux si Rory était avec nous. »« Oh, il va venir, certainement. Il ne serait pas assez méchant pour différer de souhaiter la bienvenue à 2 pauvres créatures aussi isolées que maman et moi. » Elle regarda sa montre, un des derniers cadeaux de son père. Déjà 1 heure, et à 1h30 le déjeuner. « Il n'a plus qu'une demi-heure pour venir, » pensait-elle. La demi sonna à l'horloge d'en bas et rien n'annonçait l'arrivée de M. Vaudrey. « Il est peut-être en bas avec maman, » pensa Vixen. « Et Forbes ne peut venir me le dire si on ne me l'envoie pas. » Elle descendit et rencontra Forbes dans le hall. « Pardon, miss, Mrs. Tempest ne se sent pas disposée à descendre pour le déjeuner. Elle déjeunera dans sa chambre. » « Et moi, je ne suis pas disposée à déjeuner seule dans la bibliothèque, » répondit Violette. « Dites, je vous prie, à Phébé de monter dans ma chambre du thé et des biscuits. Personne n'est venu ce matin ?»« Non, miss. » Vixen remonta chez elle. Elle était de mauvaise humeur. Cette indifférence de Rory lui était pénible. Elle lui en voulait de sa négligence, de sa froideur. Non, c'était un sans-cœur. S'il était revenu après 2 ans d'absence, dans d'aussi pénibles circonstances, comme j'aurais été impatiente de le voir. Je ne pense pas que la glace l'empêche de passer, et je suis certaine qu'il galope dans la forêt, monté sur son beau cheval, sans penser le moins du monde à moi. Ou bien il danse avec Lady Mabel. Mais non, je ne crois pas que cela lui plaise énormément. Elle allait et venait dans la chambre, rangeant, dérangeant les objets pour les remettre tels qu'ils étaient 2 ans auparavant, ouvrant un livre, puis le laissant là. Enfin, elle se mit au piano. Il sonnait faux, le repos ne lui avait pas fait de bien. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda au dehors, espérant toujours voir apparaître une voiture traversant la pépinière. Elle y resta longtemps, mais ne vit aucune voiture. La neige tombait, les grands pins seuls restaient verts. Et Violette les contemplait de ses yeux irrités, animés d'un vif ressentiment contre Rodrigue Vaudrey. « La terre est trop dure pour que la piste soit bonne. C'est une consolation, » pensa-t-elle furieuse. Enfin, voilà quelqu'un, mais ce n'est pas l'attendu. Un homme, vêtu d'une grande redingote noire très ample, coiffé d'un chapeau de feutre à large bord, et tenant à la main un grand parapluie, s'avançait avec empressement. C'était M. Scobel, le desservant de la jolie petite église gothique du village. M. Scobel était un homme bon et bienveillant, infatigable lorsqu'il s'agissait de faire le bien, ses ouailles le portaient dans leur cœur, mais en ce moment, Vixen ne lui savait aucun gré de sa visite. « Que veut-il ? » se dit-elle. « Du charbon, des couvertures, des secours quelconques, je présume. » Elle se détourna avec humeur de la fenêtre et revint, toute désappointée, s'asseoir à côté du feu. « Peut-être viendra-t-il dans l'après-midi pour le thé, » pensa-t-elle. Puis, haussant les épaules, elle ajouta « Non, il ne viendra pas. Pour peu qu'il s'inquiétât de nous, il eût été le premier à nous souhaiter la bienvenue, lui qui sait à quel point le retour à l'abbaye est triste pour moi sans papa. » Et elle regardait le feu. « Comme je suis paresseuse, » murmurait-elle. « Et cette pauvre Macrock qui m'a tant recommandé de continuer mon éducation et de lire de bons livres utiles pour orner mon esprit. Je ne crois pas que mon pauvre petit esprit puisse supporter une plus grande science. Je n'en serais pas plus heureuse à lire tout ce que les savants ont écrit. Que m'importe de savoir comment la terre est faite si je suis heureuse dessus ? Non, je n'essayerai pas de devenir une personne instruite et de haute culture. » Je lirai Byron, Tennyson et Wordsworth, Keats et Bulwer, Dickens et Thackeray. Mais je resterai ignorante jusqu'à la fin de mes jours. J'en saurai assez pour vivre avec Rory, car je sais qu'il n'ouvre pas souvent un livre. » Phoebe, la femme de chambre de Mrs. Tempest, entra à ce moment. « Miss, votre maman vous prie de descendre au salon. Monsieur Scobel est avec elle, et il désire vous voir. » Violette se leva en soupirant. « Mes cheveux sont-ils bien ébouriffés ? Je ferais mieux, je crois, d'arranger les nattes, miss. Ce qui veut dire que je suis très mal coiffée. Il est 4 heures, je puis changer de robe pour le dîner. Il me faudra, je présume, descendre pour le dîner. Miss, cela ne vous fera pas de bien de vous enfermer toujours dans votre chambre. Vous êtes pâle comme une rose de Noël. » 10 minutes plus tard, Vixen descendait au salon. Elle avait très bon air dans sa robe noire en popeline d'Irlande, dont les plis lourds convenaient à sa haute taille, et dont le ton faisait merveilleusement ressortir son teint d'un blanc mat et sa chevelure dorée. En passant, elle avait jeté un coup d'œil dans sa psyché, et la vanité lui avait soufflé à l'oreille. « Rory me trouverait peut-être embellie s'il me voyait. » Mais il n'a pas pris la peine de venir. Il lui serait parfaitement indifférent que je fusse défiguré par la petite vérole. Un grand feu de bois éclairait le salon. Au dehors, le ciel était pâle et gris. Violette entra. Mrs. Tempest reposait dans son fauteuil au coin du feu. Le dernier poème de Tennyson était ouvert sur une petite table auprès d'elle. À côté, un grand éventail noir et un flacon d'odeur. Monsieur Scobel était assis sur une chaise basse, de l'autre côté de la cheminée. Ses genoux touchaient presque son menton et son pantalon, formant une multitude de plis, étaient remontés, laissant voir ses bas gris au-dessus de ses gros souliers d'Oxford. C'était un homme d'une 30aine d'années environ, sans prétention, une paire de lunettes à large verre, assurant à sa timidité native une sorte de rempart contre le monde extérieur. Il se leva à l'arrivée de Violette et tourna vers elle ses lunettes dont les verres reflétaient la flamme du foyer. « Comme vous avez grandi !» s'écria-t-il après une poignée de main. « Et comme !» Il s'arrêta en laissant échapper un petit rire nerveux. « Je ne vous aurais certes pas reconnu si je vous avais rencontré n'importe où ailleurs. »« Peut-être Rory ne me reconnaît pas non plus, » pensa Vixen. « Et tous nos pauvres, comment vont-ils » demanda-t-elle, lorsque M. Scobel eut repris sa chaise et sa placidité. « Oh, les pauvres âmes » soupira-t-il. « Il y a eu beaucoup de maladies, de misères et de chômage. Oui, beaucoup. L'hiver a commencé tôt et nous avons eu de grands froids. James Parson est encore en prison pour braconnage. Je crains bien qu'il ne soit incorrigible. Thompson, le fils aîné de Mrs. Roper, vous vous rappelez ce petit polisson, toujours occupé à dénicher des nids, a réussi à se faire écraser par le break de Lord Ellangowan. Et maintenant, toute la famille est chez Lady Ellangowan. Une tante est même venue le veiller, et elle trouve étonnant qu'on ne la paye pas pour les soins qu'elle donne. « Voilà le malheur avec les pauvres, » dit nonchalamment Mrs. Tempest, dont les diamants étincelaient sous les flammes du foyer. « Ils ne sont jamais contents. » « Est-ce assez étrange, » reprit Vixen en sortant tout à fait de sa rêverie, « lorsqu'ils ont tout ce qui rend la vie agréable ?» « Je ne sais pas s'ils ont tout cela, Violette, mais vraiment, ils devraient être heureux dans les jolis cottages si bien aérés que votre père a fait construire pour eux. »« Qu'importe s'il n'y a pas de pain dans le buffet, » riposta Vixen. « Ma chère, il est ridicule de parler de la sorte. C'est le langage de ces odieux journaux radicaux. Je suis certaine que l'on fait beaucoup pour les pauvres. Voyez, monsieur Scobel, il ne pense pas à autre chose. » « Je fais ce que je peux, » reprit modestement le prêtre. « Mais je voudrais pouvoir faire davantage. Un revenu de 16 shillings par semaine pour subvenir aux besoins d'une famille de 7 personnes demande beaucoup d'économies. N'étaient les secours que je reçois ici et dans une ou deux autres maisons, les choses iraient bien plus mal à Beechdale. » Beechdale était le nom du village voisin de l'abbaye, celui dont l'église ressemblait à un joujou. « Évidemment, nous aurons la veille de Noël la distribution habituelle de couvertures et de vêtements chauds, » dit Mrs. Tempest. « Ce sera bien triste sans mon cher mari. Mais c'est ce qui a hâté notre retour. »« Comme vous êtes bonne, l'année passée a été bien triste, lorsque les pauvres vinrent dans le hall pour recevoir vos dons et qu'ils ne trouvèrent que les domestiques. »« Il y eut bien des larmes versées ce jour-là, je vous assure. » « Pauvres gens !» murmura Mrs. Tempest. Violette gardait le silence. Et tandis que Violette restait silencieuse entre sa mère et le pasteur, à quelque distance de chacun d'eux faisant face au foyer dont les flammes éclairaient ses joues pâles et se reflétaient dans ses yeux brillants, le ministre de Beechdale se disait à lui-même qu'il n'avait jamais vu une femme aussi belle. « Une madone peinte pour un autel !» avec tout l'éclat du coloris de Rubens et la grâce divine de Raphaël. Ces quelques mots sur les pauvres lui avaient réchauffé le cœur. Désormais, il était le champion et l'ami de Violette. Mrs. Tempest s'éventa doucement. « Je désirerais bien que l'on nous apportât le thé, » dit-elle. « Dois-je sonner, maman ?»« Non, ma fille, ils n'ont peut-être pas fini le thé à l'office. » Forbes n'aime pas être dérangé. Quoi de nouveau, monsieur Scobel? Nous ne sommes arrivés que d'hier et nous n'avons vu personne. Du nouveau, il n'y en a pas beaucoup. Lady Ellangowan a acheté une nouvelle plante rare. Et il lui est venu aussi un nouveau bébé, je crois. Oui, mais personne ne parle du bébé et tout le monde admire la plante rare. Qu'est-ce que c'est? Un beau garçon, je l'ai baptisé la semaine dernière. Je parle de la plante rare. Oh, quelque chose de magnifique. On dit que Lord Ellangowan l'a payé 500 livres. On vient la voir de l'autre bout du monde. Je crois que ces plantes vous rendent tous fous, s'écria Mrs. Tempest. Ah, voici le thé. Vous en accepterez bien une tasse, n'est-ce pas, monsieur Scobel? Je ne comprends pas cette rage pour les orchidées. Les anciennes porcelaines, les vieilles argenteries, les dentelles, à la bonne heure, mais les orchidées. Des choses qui réclament des soins incessants donnent un mal infini, et pourtant ne valent guère mieux en somme que des boutons d'or et les pâquerettes de nos champs. Voyez Lady Jane Vaudrey, elle est tout à fait l'esclave de ses fleurs. » À ce nom de Lady Jane, Violette devint cramoisie. Pour rien au monde, elle n'eût voulu faire une question sur son compagnon d'enfance, quoique mourant d'envie d'entendre parler de lui. Personne, heureusement, ne remarqua cette rougeur, ou bien elle fut mise sur le compte du foyer. « Pauvre Lady Jane !» soupira le ministre d'un air solennel. « Elle est partie pour un pays où il croît de bien plus belles fleurs que sur les rives de l'Amazone. » « Que voulez-vous dire ? Mais vous savez sans doute... » « Je ne sais rien !» se récria Mrs. Tempest. « Pendant toute mon absence, je n'ai eu de correspondance qu'avec ma femme de chambre. » Je suis une triste épistolière, et depuis la mort de mon pauvre Edward, j'étais trop triste, trop malheureuse pour écrire beaucoup. Qu'est-il arrivé à Lady Jane Vaudrey ? Elle a été enlevée par une bronchite au commencement de novembre. L'hiver dernier, elle était très malade, on l'avait emmenée à Cannes. Elle revint au printemps tout à fait rétablie, du moins on le croyait, et elle passa l'été à Briarwood. Son médecin lui ayant conseillé de ne pas rester l'hiver en Angleterre, elle partit en septembre pour l'Italie, emmenant avec elle Lady Mabel. « Et Roderick ?» demanda Vixen. « Probablement, il est parti avec elle. »« Naturellement, » répondit M. Scobel. « Monsieur Vaudrey est resté jusqu'à la fin auprès de sa mère. »« C'est très bien de sa part, » murmura Mrs. Tempest, « car ils n'étaient pas très bien ensemble, je crois. Lady Jane était un peu autoritaire. » « Je présume qu'à l'expiration de son deuil, Roderick épousera sa cousine. »« Pourquoi supposez-vous cela, maman ?» s'écria Violette. « Vous vous êtes complètement méprise en les supposant fiancés. Roderick me l'a dit. Il n'était nullement engagé à Lady Mabel et n'avait aucune intention de l'épouser. »« Alors il a changé d'avis depuis, » répondit gaiement M. Scobel, qui, malgré ses lunettes, était incapable de voir plus loin que le bout de son nez. « Car il est bien décidé que M. Vaudrey épousera sa cousine. Ce sera un mariage splendide qui fera de lui le plus important propriétaire du pays. Car Ashbourne appartient à Lady Mabel. Le duc l'a acheté et la propriété n'entre pas dans le domaine héréditaire, » ajouta le ministre, expliquant une chose parfaitement connue de Vixen. Celle-ci demeurait immobile, les yeux fixés sur le foyer. Pareil à la reine Guenièvre quand elle vient de jeter ses diamants par la fenêtre. J'ai toujours pensé qu'il en serait ainsi, continua Mrs. Tempest de l'air d'un sage. C'était le plus vif désir de Lady Jane. Elle avait le culte des grandeurs mondaines, la pauvre femme. Et la voilà loin de toute chose. C'est triste à penser. Que sont devenues ces fleurs ? Lady Jane les a léguées à sa nièce. On a fait construire des serres à Ashbourne. « Autant d'argent gaspillé, n'est-ce pas ?» dit Violette d'un ton sec. « Pourquoi ne pas les laisser à Briarwood jusqu'à ce que Lady Mabel en devienne la maîtresse ?» M. Scobel ne donna pas son opinion. Il restait tranquillement assis, sirotant son thé, heureux de passer une heure à se reposer près d'un bon feu après une journée bien remplie. Il avait un service de l'avant pour 7 heures et il lui restait juste le temps de rentrer chez lui pour y prendre son repas à la hâte, avant de courir à la sacristie endosser son surplis, tandis que Mrs. Scobel ferait gémir de ses plaintives improvisations un harmonium de 22 guinées. « Où est maintenant le jeune Vaudrey ?» interrogea doucement Mrs. Tempest. Le seigneur de Briarwood était toujours pour elle le jeune écolier d'Eton, sauvage, négligé, maladroit, cassant tout et laissant toujours sur les tapis d'Aubusson l'empreinte de ses souliers crottés. « Il n'est pas encore revenu. Le duc et la duchesse sont allés à Florence, peu de temps après la mort de Lady Jane. Et je crois que M. Vaudrey est à Rome avec eux. Depuis le mois de septembre, Briarwood est resté fermé. Je vous le disais bien, maman, que la mort nous attendait ici. Dès notre retour hier soir, j'ai senti que toute notre vie était changée. Je ne crois pas que le deuil aille bien à Lady Mabel, ruminait Mrs. Tempest. Ces créatures mignonnes ne sont généralement pas bien en noir. Après un visible effort, M. Scobel se leva pour prendre congé. La délicieuse chaleur du feu de bois l'avait disposé au sommeil. « Vous viendrez, j'espère, voir notre nouvelle école, » dit-il à Violette en lui donnant la main. « Votre chère maman et vous avez si largement contribué à son élévation que vous avez le droit de critique, mais je pense que vous serez contente. » « Nous irons demain dans l'après-midi, » dit Mrs. Tempest gracieusement. « Vous viendrez dîner à 7 heures avec Mrs. Scobble, et nous causerons de ce que nous aurons vu. « Vous êtes bien bonne. J'ai la classe religieuse pour les jeunes femmes à 8h30, mais si vous me permettez une absence d'une heure... »« Certainement. Je reviendrai prendre Mrs. Scobble. Merci, nous serons très heureux de venir. » Après son départ, Violette se dirigea vers la porte, sans dire un mot à sa mère. « Vous vous en allez encore, Violette ? Je vous en prie, mon enfant, restez, nous causerons un peu. »« Je n'ai rien à dire, maman. »« Allons, vous m'avez tout à fait abandonnée depuis que nous sommes rentrés chez nous. Croyez-vous que je ne sois pas aussi triste, aussi malheureuse que vous ? Ce n'est pas une conduite convenable, Violette. » Il me faudra prendre une demoiselle de compagnie si vous m'abandonnez ainsi. Miss McCrock était austère, mais pas insociable. On pouvait causer avec elle. Vous feriez mieux de prendre une demoiselle de compagnie qui soit gaie et puisse causer de tout pendant toute la journée. Certes, une demoiselle bien élevée sera ainsi. Elle aura toujours de quoi babiller. Pour moi, il me semble que je ne pourrai plus jamais rire. Nous aurions mieux fait de rester à Brighton. Je déteste Brighton. Nous y avions fait tant de connaissances charmantes. Je hais les personnes charmantes. Savez-vous, Violette, que vous avez un affreux caractère ? Je sais que je ne suis faite que de défauts, riposta Violette avec véhémence. Elle sortit sans dire un seul mot et monta droit à sa chambre, non pour s'adonner à un chagrin d'enfant déraisonnable, comme pendant la nuit qui précéda la majorité de Roderick, mais bien pour envisager en face la situation. Elle se promenait de long en large dans sa chambre, réfléchissant à ce qu'elle avait entendu. « Qu'est-ce que ça peut me faire à moi ? Pourquoi serais-je si en colère ? » se demandait-elle. « Nous n'avons jamais été que des amis et des compagnons de jeu. Je crois même qu'au fond, je ne pouvais pas le souffrir. Il était le favori de papa. Je ne le tolérais guère que pour cela. » Elle se crut soulagée d'avoir pris une décision sur ce point. Cependant, elle ne pouvait se défendre d'un sentiment de vide, d'une vague et insurmontable souffrance. Elle allait et venait sans voir le feu qui s'éteignait, ni la nuit qui tombait. « Je me fais horreur à moi-même d'être si vexée pour si peu, » se dit-elle, en joignant nerveusement les mains au-dessus de sa tête, ce qui, mieux que quoi que ce fût, témoignait de l'intensité de son dépit. « Puis-je, moi, Violette Tempest, être une créature assez méprisable pour songer à un homme qui, lui, ne s'occupe pas de moi du tout ? Être fâchée, colère, parce qu'un homme ne me veut pas pour femme ? Non, non, c'est impossible. Si cela était, je crois que je me tuerais. Je serais honteuse de vivre. Je ne pourrais regarder un être humain en face. Je prendrais du poison, ou bien je me ferais catholique pour entrer dans un couvent où je serais sûre de ne jamais revoir la figure d'un homme. Non, je ne suis pas une créature si odieuse. Je n'ai aucune inclination pour Rory. Ce n'est qu'un ancien camarade de jeu. Quand il reviendra, j'irai droit à lui et je lui tendrai la main en le félicitant de tout cœur pour son prochain mariage. Peut-être Lady Mabel me demandera d'être une de ses demoiselles d'honneur. Elle en aura probablement 12, 6 en rose, 6 en bleu, comme des poupées de cire à une fête de charité. Pourquoi les gens ne peuvent-ils se marier sans se rendre ridicules ? La demie sonna en ce moment, et Vixen descendit au salon, où les lampes et les bougies répandaient une vive lumière. On apercevait sur une table plusieurs œuvres de littérature légère destinées à distraire la triste veuve. Violette alla à sa mère et s'agenouilla devant elle. « Chère maman, pardonnez-moi ma mauvaise humeur de tout à l'heure, » dit-elle avec douceur. « J'étais surexcitée. À l'avenir, je tâcherai d'être plus aimable, de façon que vous ne soyez pas obligée de prendre une dame de compagnie. » « Ma chère enfant, votre surexcitation ne m'étonne pas, » répondit gracieusement Mrs. Tempest. « Il fait horriblement triste ici. Comment avons-nous pu endurer cela du temps même de votre père ? Je ne le comprends vraiment pas. C'est comme si nous vivions au désert, au pied des pyramides d'Égypte. Il nous faudra créer un cercle d'amis aimables, sans quoi nous deviendrons folles de tristesse.